Recule un peu, recule, recule.
Stationner en parallèle, ça devrait être simple.
OK, crampe en masse, crampe, crampe, crampe!
Faire et suivre une réclamation rapidement sur l'appli Bel Air Direct, ça, c'est simple.
OK, des crampes.
Bel Air Direct, l'assurance simplifiée.
Mesdames, messieurs, bonjour, bienvenue au balado Sortie de zone, saison 5, épisode 42 de ce lundi 4 mars, avec les gars de la presse, Guillaume Lefrançois qui est là. Salut Guillaume.
Salut Gérard.
Nous avons Alexandre Pratt, salut Alexandre.
Salut Jérémy.
Et pour le 98.5 FM, Stéphane White qui est là, salut Stéphane.
Bon début de semaine, les gars.
Les gars, vous m'excuserez, je suis un peu enrhumé aujourd'hui. Une petite affaire de rien, mais j'ai une petite voix de femme. C'est de valeur que Richard Labbé soit pas là parce qu'on aurait le balado complet pour se faire. OK, concours de t-shirt, attaboy. Ceci étant dit, aujourd'hui, on va se parler de petits détails chez les Canadiens de Montréal qui va poursuivre ce Amen Corner du hockey avec un autre match contre Nashville. Référence Amen Corner, c'est le tournoi des maîtres et il y a trois trous consécutivement qui sont assez difficiles. Là, c'est pas trois, c'est plutôt quatre matchs assez difficile pour le Canadien. C'est Martin Saint-Louis qui en faisait la référence. On va se parler de petits détails. On va se parler des enjeux, justement, de ces matchs contre Nashville, la Caroline. On va se parler d'Elias Pettersson, qui est plus riche de 92,8 millions de beaux dollars. Et on va se parler des Pingouins de Pittsburgh, où ça va pas très, très bien. Dure défaite face aux Oilers d'Edmonton par la marque de 6 à 1. Je sais pas, vous avez vu les images de Sidney Crosby dans le vestiaire. T'es pas super heureux. On le sent un petit peu frustré par ce qui se passe présentement. On va en parler un petit peu plus tard, mais pour l'instant, avant qu'on se parle la date limite des transactions qui sera vendredi prochain. Ce week-end, je pense que tout le monde est attristé par la perte du collègue Paul Hood. Évidemment, au balado sortie d'onde, on veut offrir nos sympathies à la famille proche, mais à la grande famille médiatique également, parce qu'il y a eu tellement de réactions. Je veux juste faire un tour de table, un petit coup de chapeau à Paul Hood. Je commence avec toi, Guillaume.
Ce qui m'a fait réaliser, si on veut, la polyvalence de Paul Hood, c'est que au moment où ça se passait, je me disais, dans quelle section du journal qu'on va en parler?
C'est fou, hein?
Est-ce que c'est dans les actualités? Est-ce que c'est dans le sport, est-ce que c'est dans les arts, est-ce que ça peut aller partout. C'est un gars qui avait, tu sais, c'est un homme qui avait tellement de talent dans tous les domaines que des personnalités comme ça dans le monde des médias, je sais pas si on va en revoir, honnêtement. C'est absolument fascinant. J'ai pas beaucoup de choses personnelles à dire à son sujet. Je l'ai interviewé une fois, je l'ai jamais rencontré, mais la fois que j'ai interviewé au téléphone, avait été absolument un chic type. Donc vraiment, c'est un genre de perte qui fait beaucoup de peine.
Alexandre?
Ben moi, je retiens deux choses. Un, l'expertise. C'était vraiment quelqu'un qui avait une très grande expertise, surtout en athlétisme, où il était descripteur aux Jeux olympiques. Il était aussi membre de l'Union internationale des statisticiens d'athlétisme depuis 1978. Quand même, un fait dont il était quand même fier. Il avait aussi une expertise en football. Hein. On parle souvent de son amour pour les Blackhawks de Chicago, mais avant tout, c'était vraiment les un 49ers. Fan de football. Ouais, moi, je l'ai interviewé il y a un an et demi, puis il écoutait trois matchs tous les dimanches. Le lundi, il écoutait le Monday Night Football. Et quand les 49ers perdaient, il pouvait être désagréable pendant 72 heures.
Je peux te le confirmer.
Mais l'autre chose, c'est la passion. C'est rare qu'on voit des personnes avoir autant de passions différentes. Tu sais, il y avait le hockey, il y avait le football, il y avait l'athlétisme, mais il y avait aussi l'aviation. Mm-hmm. Il y avait les VR, il y avait les éclipses.
L'astronomie,
il notait la météo. Puis en fait, ce que j'avais retenu quand j'avais interviewé, c'était à quel point l'entrevue, quand j'ai regardé mes notes, on était passé du coq à l'âne. Ça allait vraiment de, tu sais, une fois Bruno Sirin m'a dit que, tu sais que j'ai appris l'allemand avec Katharina Witt, hein?
Quand même.
Genre, oui, genre, j'ai vu le nouveau stade des Rangers du Texas, c'est malade, tu sais. Donc, c'est quelqu'un vraiment de très éclectique. T'sais, c'est un petit peu, quand on étudie l'histoire, là, au secondaire, au cégep, on parle des hommes de la Renaissance, tu sais, les gens qui avaient des connaissances générales très vastes dans plusieurs domaines, ils étaient un petit peu comme ça. Donc, en effet, c'est un genre de personnalité qu'on voit moins souvent aujourd'hui.
Stéphane, de ton côté?
Ben écoute, j'adorais écouter Paul Hood, que ce soit sur tous les sujets, n'importe quel sujet, vous venez des énumérer. Je me souviens souvent quand j'étais Alex, tu viens de le dire, c'était un grand, peut-être le plus grand partisan des Blackhawks au Québec. Et puis quand j'étais à Chicago, une quelques fois, il m'a appelé pour une interview. Et puis je me plaisais à lui dire que c'était un de mes gardiens de but préférés. Il aimait ça, mais il trouvait ça drôle. Bien sûr, on fait référence à Fern dans les Boys, mais c'était tout un bonhomme. 69 ans, c'est un choc, c'est tellement jeune. Mmh.
J'ai eu le privilège de travailler avec lui pendant une saison grand complet, sa dernière saison sur les ondes de Cogeco. Et c'est un bonhomme qui est rempli de gentillesse, de bienveillance et esprit éclaté. C'est tellement le fun, on peut improviser avec lui pendant des heures. Mais juste dire, tu sais, avec sa grande connaissance, la pire affaire que tu peux faire en tant que journaliste sportif, c'est d'essayer de crémer plus épais que lui.
Oui, en effet.
C'est pas possible. Sauf que, écoutez bien celle-là, OK? C'est une petite anecdote. Vous savez, le jeu « Quelques arpents de piège », j'ai toujours la maudite maladie de retenir une question de réponse qui n'a pas rapport avec rien, mais sauf que j'en ai une sur l'athlétisme qui s'appelle « Qui a remporté le marathon de Montréal, je pense, en 82? » Et la réponse était Kébédé Balcha, OK? Un Nigérien, Kébédé Balcha. Et là, à un moment donné, on parle du marathon de Montréal, puis là, je lance comme ça. Et on se souviendra de la victoire de Kébédé Balcha, d'ailleurs, au marathon de Montréal. Il me regarde les yeux ronds. Waouh, il était content pour que je lui dise, après qu'on s'en va à la pause, « Écoute, c'est la seule affaire que je savais. » quelques arpents de piège, c'est tout ce que je savais. Non, mais chic type. Puis chapeau à Paul Aude et encore une fois nos sympathies à toute la famille et à la grande famille médiatique qui a été touchée par le départ de Paul Aude. OK, messieurs, 4 jours avant la date limite des transactions, je donne l'information juste avant. Vendredi prochain, nous aurons notre balado. On va attendre à la fin de la journée, après les points de presse, pour être en mesure de vous donner un balado avec la totalité de l'information. Du moins, on l'espère parce que ça rentre toujours un peu plus tard. Ça sera vendredi prochain. À 4 jours. De la date limite des transactions. Le Canadien bougera pas, et c'est pas la comptine de passe-partout. Bougera pas. Guillaume, avec toi, est-ce que ça bouge ou ça bouge pas?
Ben, moi, je dis bougera, basé sur l'expérience, la feuille de route de Kent Hughes. The Athletic a sorti aujourd'hui un dossier quand même intéressant où on compilait les statistiques des DG. Et Kent Hughes arrivait au 5e rang parmi les DG les plus actifs.
Okay.
Dans la période, eux, ils ont calculé la période, dans le fond, entre le 1er janvier et la date limite des transactions. Kent Hughes, en moyenne, fait 6 transactions par année pendant ces deux mois et demi-là. Jusqu'ici, il est à 2 transactions seulement. Sean Monahan, bien sûr, et une transaction des Ligues mineures pour Philip Cederquist. Alors, ça laisse croire qu'en général, il profite quand même de cette fenêtre-là pour faire 1 ou 2 changements. Je dis pas que ça va être nécessairement des transactions majeures, mais justement, je parlais de Philip Cederquist. Ben, tu sais, Rocket de Laval se bat pour les séries. Alors, il va-tu avoir un petit mouvement-là, peut-être? Après ça, pour les joueurs plus établis, on verra, on pourra reparler. J'ai tenté de me faire une tête sur la question de Tanner Pearson, à savoir qu'est-ce qui peut bien arriver.
OK, mais c'est intéressant. On va faire ça, là. Je vous amène des noms, puis vous me direz si vous pensez que ça bouge. Savard, Armia, Pearson, Primo, Kovacevic, Allen, Josh Anderson. Je voyais, là, il y avait du patinage aujourd'hui, ces réseaux sociaux. Josh Anderson. Ouais. Je sais pas. S'il arrive à faire ça, finalement, faut lui donner le DG de l'année à Kent Hughes. Bon, vas-y quelques noms. Si ça bouge, ça bouge pas.
Ben, de tous les noms que t'as nommés, ça serait pas majeur, mais je pense que Kovacevic est peut-être celui qui a le plus de chance, étant donné son salaire à peu près 800 000 $ là, par année. Même s'il reste une autre année, justement, les DG pour de la profondeur, des gars à ce salaire-là, c'est parfait. Tanner Pearson, où ça devient intéressant. En fait, Tanner Pearson, on dirait que ce que j'entrevois comme possibilité, comme scénario, ça serait une transaction à 3h-10, c'est-à-dire, tu sais, son salaire est oui, on dit 3,2 millions, c'est un gros salaire pour de la profondeur, mais une équipe, tu sais, un DG qui l'a, cet argent-là, et qui, à 3h-10, l'a pas encore dépensé, je pourrais quand même entrevoir un DG qui dit bon, ben regarde, pour 2 mois, let's go, de toute façon, c'est ça, c'est son contrat finit cette année, donc c'est pas plus grave que ça. Alors, un DG qui l'a l'espace et qui l'a pas utilisé, ben c'est pas non plus un mauvais ajout à faire. Après ça, la valeur pour Pearson, c'est je pense pas plus qu'un choix de 6e tour, honnêtement. Mais c'est quelque chose quand même qui est pas impossible. Pour Kent Hughes, je pense que ça paraît très bien de le faire aussi, parce que Tanner Pearson, tu vas lui rendre service en l'échangeant. Tu vas premièrement lui donner une chance d'avoir une fin de saison stimulante, une chance de gagner la coupe. Et tu vas également l'aider dans sa négociation, parce que lui, il doit se trouver un contrat cet été. Alors c'est sûr que s'il fait un petit bout en série, s'il paraît bien, ben tu vas l'aider pour ça. Alors, à tous ces niveaux-là, ça peut être gagnant pour Kent Hughes. Le seul désavantage que je vois, c'est que j'en parlais tantôt, le Rocket de Laval se bat pour une place en série. Là, tu as Raphaël Harvey-Pinard qui est visiblement sur le point de revenir au jeu. S'il revient et que tu n'échanges pas Pearson, ben ça te donne la chance de renvoyer Joshua Roy à Laval pour donner un bon coup de pouce au Rocket. Mmh. Alors, c'est peut-être le seul côté négatif que je verrais, mais c'est ça. Je verrais Pearson dans un scénario comme ça, mais c'est vraiment le seul scénario que j'imagine.
Alexandre, bougera pas le Canadien de Montréal?
Il bougera peu, mais il va bouger, je pense. Je pense d'abord qu'il va y avoir des moves de ligue mineure, justement pour renforcer le Rocket. Il l'a fait l'année dernière, souvenez-vous, là, il y avait eu Frédéric Allard qui était venu, je pense Nature était parti, je ne me rappelle pas exactement de toutes ces transactions, mais il a quand même bougé là-dessus. Je pense qu'il va le refaire cette année parce que c'est important pour l'organisation que le Rocket participe aux séries et ait le meilleur club possible. Ça, c'est une chose. L'autre, pour une transaction, je pense que si on y va à un pour un, en effet, Jonathan Kovacevic, c'est peut-être une bonne prise en raison de son contrat. Puis le Canadien aurait quand même une valeur là, pour un défenseur comme celui-là. Puis je dis pas un choix de premier tour, là, oubliez ça, mais il pourrait avoir quelque chose en retour. T'sais, peut-être même un attaquant de soutien ou quelque chose. Pour les autres joueurs, je me demande si ça serait pas possible qu'il y ait une transaction à trois équipes, mais dans laquelle il y ait un courtier qui soit pas le Canadien, qui prenne une partie du salaire à l'extérieur. C'est-à-dire qu'on donne une compensation à une équipe pour que l'équipe prenne une partie du salaire d'un joueur que le Canadien enverrait ailleurs. Parce que là, il reste juste une option pour le Canadien de prendre du salaire.
Une case de
une
rétention.
Une case, qui est pas beaucoup. Puis, tu sais, dans un mondial, je pense que tu préfères la garder pour le repêchage, là, t'sais, pour faire une transaction qui soit plus grande. Dans ce contexte-là, t'sais, Yoel Armia, il joue quand même bien là, depuis deux mois. T'sais, être une autre équipe, puis je regarde en fait les joueurs disponibles chez le Canadien, le joueur qui m'intéresserait, ce serait Armia. Après, il y a la question de son contrat qui est quand même... il occupe quand même une place importante sur la masse salariale. Mais t'sais, est-ce qu'il y a moyen d'être créatif puis de trouver une solution? Puis t'sais, c'est pas une transaction ça qui se fait à 3h moins 10. C'est quelque chose qui se prépare sur du long terme. Mais il joue assez bien présentement pour intéresser un club qui est en bonne position pour les séries.
Okay. Surtout, il y a un bon historique en série en
plus. Ouais. Ah, clairement.
Mais honnêtement, là, tu sais, puis les gens, ils blaguent, puis tu sais, je me suis fait un peu ramasser ses réseaux sociaux, fait, parce que la semaine dernière, j'ai dit qu'il était un joueur élite défensivement. Bon, il était un peu fort. mais il joue bien. Regardez les matchs plutôt que de juste lire ce qui s'écrit sur X, là. C'est un bon joueur. Je veux dire, Martin Saint-Louis, ça fait plusieurs fois qu'il en parle dans les dernières semaines aussi, de dire, hey, tu sais, un tel a du succès parce qu'Armia joue bien à côté. Et puis, Dieu sait que j'étais pas son fan, là. Je veux dire,
mais là, il est dans une séquence où il veut démontrer qu'il y a du talent, il veut démontrer ses atouts.
Bien. Il va bien.
Ça va bien. Mais quand il veut pas le faire, c'est là que c'est un grand mystère de la vie.
Bref, ça pour dire, si je suis une autre équipe, les deux joueurs qui m'intéresseraient, là, qui coûteraient pas les yeux de la tête, ça serait Armia puis Kovacevic.
OK, Stéphane, bougera pas. Puis là, parle-moi des gardiens, parce que là, moi, le ménage à trois, je suis plus capable. Raconte-moi.
Plus capable.
Ah, mon Dieu, ça n'a pas de sens.
Mais écoute, bouge pas. Le marché des gardiens de but, écoute, j'en reviens encore avec une équipe comme Colorado, qui aurait besoin de profondeur. Puis on parle pas de gardien de but numéro un, mais on parle de... Ça prend absolument un gardien de but qui peut seconder Georgiev. S'il arrive quelque chose, ça serait le type d'Allen. Donc, une équipe ou comme la Caroline qui ont besoin de profondeur. Los Angeles qui ont besoin de profondeur. Edmonton qui ont besoin de la profondeur. On parle tout de situation de gardien de but numéro 2. Moi, je pense qu'un Allen pourrait aider ces équipes-là, mais on n'aura rien en retour. Ça, c'est clair et net à cause de son salaire qui reste... une autre année après cette année. Mais faut qu'il y ait encore là créatif, comme Alex disait, il faut qu'il y ait créatif au niveau de l'argent, peut-être trouver un troisième partenaire. J'espère qu'on va être capable de régler ça, parce qu'après ça, mais je veux dire, on regarde la situation de Primo, seulement 13 départs. Ça n'a aucun bon sens à 24 ans, 13 départs. Malgré qu'il y ait seulement 13 départs, il va bien. Donc j'espère qu'on va être capable de trouver une façon de convaincre un club de le prendre. Après ça, mais écoute, moi aussi, je suis d'accord. Kovacevic est intéressant et surtout, je suis tellement d'accord, Armia. Armia, que moi, j'ai tout le temps aimé comme joueur. Oui, il y a souvent des absences, mais quand il est là pour à peu près. C'est un gros bonhomme. Ça, c'est trois. C'est un gars qui est capable de gagner des batailles un contre un sur le bord des rampes. Ça, c'est dans les séries, c'est le genre de joueur qu'on veut et qui a prouvé qu'il a bien fait. Écoute, t'as quand même 11 buts pour un gars qui a joué seulement 45 parties. Il y a 11 buts. Ça, c'est quatrième, ça, chez le Canadien.
Puis il joue presque pas en power play, en plus. Là,
puis il joue presque pas en power play. Donc, moi, c'est un joueur que je dis, c'est une équipe adverse, il m'intéresse.
Après OK, ça, mais attends, j'ai une question. Pourquoi se départir d'Armia si tu veux améliorer ton équipe, quand ce gars-là joue bien, qu'est-ce que tu vas aller chercher? T'as-tu besoin encore de choix et encore des choix?
Très bon point.
Tu sais, qu'est-ce,
bon
qu'est-ce que tu gagnes en échangeant un gars qui peut t'aider?
Ben, la seule affaire qu'on gagne, c'est peut-être un peu d'espace sur la masse salariale. Parce que, écoute, c'est le genre de gars que moi, avoir dans ton équipe, sur une troisième, quatrième ligne, moderne affaire, je suis capable de vivre avec ça n'importe quand. Mais peut-être pas à 3.4. C'est peut-être son seul petit défaut à Armia. Parce que comme joueur aussi, c'est un bon gars. Dans la chambre, il est aimé. Tu sais, j'ai pas de trouble avec Joel Armia. Tout ça pour dire que oui, c'est une bonne question, JR, de dire pourquoi qu'on l'échangerait à ce compte-là. Mais c'est parce que oui, il y a peut-être un club, il y a peut-être une certaine valeur. Donc, puis même pas des choix. Là. Des choix, là, on a assez.
Juste ajouter un point avant qu'Alexandre veut se prononcer là-dessus. Tu sais, honnêtement, si tu as à te libérer de l'espace sur la masse salariale, c'est avec un Josh Anderson qu'il faut que tu sois capable de le faire. Tu sais, maintenant, comment.
Ça faut être encore plus créatif.
Comment échanger Josh Anderson? J'ai vu Mesmer hier à Tout le monde en parle. Apparemment, qu'il est capable d'hypnotiser le monde. Peut-être que ça pourrait marcher. Mais je sais pas sinon. S'il arrive à échanger Josh Anderson, sincèrement, encore une fois, on y donne.
Mais
moi, si j'étais, je vous dis, les gars, là, moi j'étais dans une autre organisation, j'aurais la maladie du poisson rouge. Ça veut dire, il y a des chances que je me dise, garde Josh Anderson. Là, il fait rien, là. Mais dans notre club, il pourrait tellement être bon. Il patine, il drive le net, il est super bon. Tu penses pas que ça peut marcher?
La dernière fois que c'est arrivé, on lui a donné combien? C'était Marc Benjamin qui pensait ça, puis on lui a donné combien? Beaucoup trop d'argent.
5.5.
Non, oublie ça, l'Anderson. Mais tu sais, puis Armia, ben pourquoi l'échanger? Je pense pas qu'il va être dans le noyau de joueurs du Canadien quand le Canadien va être de retour vers les séries ou en tout cas très compétitif. Là. Je pense pas qu'il va faire partie de ce noyau-là. L'autre chose, c'est un joueur de séquence. Hey, puis il y en a eu là, des mauvaises séquences. Là. L'année dernière, j'étais sur son cas pas mal. Là. Mais c'est pas un joueur qui, à date, a été bon et stable sur une longue période. Là, il l'est. C'est un petit peu un cas de tu vends au sommet du marché présentement. Donc, ça doit être envisagé. Là.
En même temps, par contre, si tu l'échanges pas cet hiver, même si c'est fort possible qu'il y ait des léthargies l'an prochain, tu vas avoir moyen de le passer aussi l'an prochain. Puis au moins, l'an prochain, il t'aide quand même à partir de la saison, tout ça. Je pense que c'est un gars qui pourrait être intéressant avec Kirby Doc. Si tu veux un trio top 6, mais de joueurs plus costauds. Lui et Doc dans un même trio, ça peut être quand
même... Mais ils le donneront pas, là. Jusqu'on s'entend, là. Ils donneront pas un mieux contre un 6.
Ils vont pouvoir... Ils auront une autre fenêtre l'an prochain si jamais
dans
tu
un
veux...
An. Vas-y, exactement. Et dans un an, il va avoir la même valeur qu'aujourd'hui. La même valeur, peut-être plus, parce que dans un an, il va avoir... Un an, il va rester juste la fin de saison de son contrat.
Ouais, à moins qu'il soit en léthargie. Il n'est pas en léthargie. En fait, la grande force d'Armia, c'est que depuis deux mois, si t'es un dépisteur adverse puis tu viens voir les matchs, ça paraît. Là, il ressort sur la glace. Ça compte. Là.
Ouais, clairement. Bon, ben écoute, on va voir ce qui va se passer vendredi.
Ça pour dire que ce fameux 5 jours-là, là, pour une équipe qui est vendeur, est longue pour les entraîneurs. J'ai été ces deux côtés de la médaille, moi. Le côté de vendeur puis d'acheteur. Et puis là, c'est la semaine où que les gars, tous les jours, dans l'autobus, quand t'es sur la route, pour aller à l'aréna, sont tous sur le cellulaire. Ils regardent toutes les rumeurs, ils regardent d'autres. Oh, tel gars vient d'écran.
Je pensais qu'ils nous lisaient pas.
Ben oui.
Il lit tout parce qu'il y a du monde qui a été au courant, je peux te dire ça. Mais c'est une semaine que c'est dur d'avoir... La concentration totale de tes joueurs, parce que tout le monde, t'es dans la peau là, du Canadien, des joueurs, là, tu dis, bon, ben qui va partir? Ah, c'est-tu Allen? C'est-tu Evans? C'est-tu Pearson? C'est-tu Armia? C'est-tu Kovacevic? C'est-tu Primo? C'est-tu Savard? C'est qui? Qu'est-ce qui va se passer? Fait que là, c'est dur d'avoir l'attention des joueurs, surtout qu'on joue deux matchs cette semaine, mardi et jeudi. Donc, c'est une semaine qui est dure pour les entraîneurs. T'as hâte que cette semaine-là soit passé.
Je suis curieux, Stéphane, par ton expérience, mais qu'est-ce qui est le plus distrayant, justement? C'est-à-dire, est-ce que c'est les joueurs eux-mêmes qui font l'objet de rumeurs et qui sont un peu préoccupés, ou c'est les coéquipiers qui se demandent lequel de leurs chums s'en va, puis à quoi l'équipe va ressembler? Tout
ben,
ça?
Je te dirais les deux, Guillaume, c'est exactement les deux. Les joueurs ont hâte de savoir ou pas hâte de savoir qui s'en va dans le gang. Tu veux dire, t'es proche, tu crées des liens avec des joueurs, puis tu te dis, bon, ben, peut-être mon meilleur chum me le parle dans deux jours. Même le joueur lui-même qui fait partie de toutes ces rumeurs-là ou qui sait qu'il y a des bonnes chances de partir, lui aussi, c'est comme, bon, ben, je m'en vais où? Puis là, c'est la famille qu'il faut qu'on fasse quoi avec la famille. Puis c'est beaucoup de stress, beaucoup de choses.
Distraction, là.
De distraction, exactement. Donc, c'est une semaine qui est dure pour les entraîneurs de garder les gars focusés sur la tâche. Sauf qu'en contrepartie, t'as l'autre côté de la médaille où quand t'es acheteur, ça, c'est excitant pour les joueurs puis pour les coachs. Là, t'en as toute hâte de savoir, hey, on va-tu l'avoir tel joueur qu'on vise ou on va-tu l'avoir l'aide qu'on pense qu'on peut avoir pour faire un bon bout dans les séries. Ça, c'est excitant. Et puis, je me souviens, là, j'étais sur le côté des acheteurs aussi. En 2004, quand à la dernière minute, Marc Bergevin nous a dit qu'on venait d'avoir Vanek pour pratiquement rien. Pour pratiquement rien, Sebastian Kohlberg et un deuxième choix. Ça avait donné tout un boost à l'équipe pour le restant de la saison. L'année d'après, la même chose avec un Jeff Petrie qu'on avait acquis pour deux choix au repêchage. Ça, c'est des situations qui sont le fun. Ça fait que c'est les deux côtés de la médaille.
Oh mon Dieu, que ça nous manque à Montréal d'avoir quelque chose de palpitant à la date limite des transactions. Hey, juste vous dire une chose. Là, OK, là, on s'imagine une multitude de scénarios, de transactions qui peuvent arriver, qui peuvent pas arriver. Mais advenant le cas qu'il se passe rien avec les gardiens de but, là, tu fais quoi? J'écoutais Pat Lalime en fin de semaine, samedi, qui dit, tu sais, c'est cute, là, mais Jake Allen va rester avec l'équipe, mais il ne gardera plus les buts. Il va être dans les estrades, puis je vais avoir Primo et je vais avoir Montembeau qui garde les buts. Je vais avoir juste votre opinion là-dessus, Steph. Je commence avec toi.
Totalement d'accord avec Pat. Écoute, et comme je disais tantôt, pour Caden, seulement 13 départs. Ça n'a aucun bon sens. 13 départs, 24 ans. Mais malgré tout, il joue bien. Et puis, j'avais sorti, moi, à un moment donné, pauvre Caden, hein, pour dire comment c'est difficile. Entre son premier départ de la saison et son deuxième, 16 jours. Après ça, le prochain départ, 7 jours. Après ça, 8 jours. Après ça, 6 jours. Après ça, 9 jours. Après ça, 13 jours. Après ça, 9 jours. Après ça, 13 jours. 26 jours, 9 jours, 9 jours. Ça n'a aucun bon sens. En moyenne, tu pars des parties aux 12 jours. Ça n'a aucun bon sens. Donc, il faut régler ça. Et puis ça nuit à deux gardiens de but. Ça nuit à Primo, on vient d'en parler, et ça nuit à Montembeau, qui on veut voir dans un vrai calendrier où qui peut un calendrier de numéro 1. Là, il y a un calendrier d'un gardien de but qui joue à la moitié des matchs. Et puis, tout ça pour dire qu'on sait tous que notre avenir n'est pas dans le filet avec Jake Allen. Donc, après le 8 mars, s'il n'est pas parti, ben moi, ça serait des départs occasionnels, très occasionnels, parce que tu ne peux pas lui dire, OK, là, range ton équipement, là, c'est fini pour le restant de la saison. Il ne faut pas faire ça, mais ça serait très occasionnel comme départ.
Depuis le 1er décembre, j'ai isolé les données depuis ce temps-là, puis tu vois justement Montembeau a 19 des 38 départs, donc il y a exactement la moitié des départs. Alors comme tu dis, Stéphane, c'est pas un rythme de travail de gardien numéro 1. L'autre chose qui est étonnante depuis le 1er décembre, que j'avais pas réalisé, mais c'est que c'est Kevin Primo qui a les meilleures statistiques des trois gardiens. Kevin Primo joue pour 912, moyenne de 2,62. Montembeau est à 901 et Jake Allen est à 8,82 depuis le 1er décembre. Donc, je veux dire, ne serait-ce que basé là-dessus, je veux dire, Primo l'a montré, là, c'est lui qui mérite. Il mérite d'avoir plus que les 8 départs qu'il y a eu depuis ce temps-là. Mm-hmm. Je comprends que le Canadien essaie de donner des départs à Allen de temps en temps parce que si tu veux éventuellement l'échanger, ben, faut qu'il joue un peu. Mais j'ai l'impression qu'en jouant, c'est pas en jouant qui aide sa cause en ce moment. Donc, mais c'est ça. Comme Stéphane, je pense que Primo mériterait de jouer bien davantage là, après la date limite.
Tu peux pas asseoir Allen jusqu'à la fin de la saison. Non. Tu sais, je veux dire, série à l'aise, d'un point de vue gestion, ce serait catastrophique. T'aurais quelqu'un d'archi mécontent dans le vestiaire, un vétéran de surcroît, de quelqu'un que les autres joueurs respectent. Deuxièmement, si tu veux l'échanger cet été, puis tu envoies le message, non, moi, les deux derniers mois, c'est fini, il joue plus, même dans un contexte où les matchs comptent pas, c'est impossible. Je veux dire, vraiment, il va falloir l'envoyer sur l'île Robidoux ou quelque chose.
C'est où ça, l'île Robidoux?
L'île Robidoux, c'est quand
c'est
fan.
C'est à Toronto, ouais. Ça. C'est pas à Toronto.
Quand Stéphane Robida était blessé en fin de carrière, en fin de carrière et on l'avait mis. Ça. Bien,
oui, c'est ça. Donc, vraiment, d'un point de vue gestion, ce serait un mauvais c'est une très, très mauvaise décision d'asseoir la lune jusqu'à la fin de l'année.
Non, mais, ça, mais ça, sans le laisser de côté complètement, par contre, tu dois vraiment, non, je pense,
dire, okay, donner attendez, le là. Corps des matchs.
Non, mais c'est cool,
matchs,
là, j'aime mais... ça. Moi, là, on est sympathique avec Jake Allen, mais sincèrement, là, Kuznetsov est rendu dans la Ligue américaine. Est-ce que Jake Allen peut pas aller dans la Ligue américaine? Et là, on pourrait donner plein de crédits à Simon-Olivier Larange qui avait dit « Je serais pas surpris de voir Jake Allen aller dans la Ligue américaine, Stéphane. » Va te refaire une santé, va garder les buts, va aider le club à gagner.
Exact, oui, ça pourrait se faire, mais c'est quand même des affaires. C'est quand même des affaires touchées. Quand tu dis il te reste un mois dans la saison, tu veux pour que ça finisse ça avec un vétéran tout croche comme ça. C'est touché un petit peu. Washington l'a fait. C'est peut-être un scénario différent dans le sens qu'il revient du programme d'aide aux joueurs. Mais c'est des affaires touchées. Mais dans le pire des pires, là, il va rester un mois après le 8 mars. Fait que on peut vivre avec ça. Là, que ça ne changera pas grand-chose que Montembeau en gold 4 de plus puis que Primo en gold 3 de plus. Dans le PDP, il va rester un mois.
En fait, techniquement, il va rester un an et un mois parce qu'on ne sait toujours pas qu'est-ce qui arrive l'année prochaine.
Ah, exact.
Là, comme ils sont là, mettons qu'ils échangent personne. Moi, je pense qu'ils échangeront personne avant la fin de la semaine dans les gardiens. Puis, je disais, Refilé Allen cet été, my God, bonne chance. Là, pour vrai, là, avec la fin de saison ou la deuxième partie de saison qu'il y a présentement, ça va être difficile. On s'enligne pour un autre ménage à trois en septembre.
Mais sincèrement, je pense que...
Impossible. Tu peux pas.
Le ménage à trois a nuit à tout le monde. A nuit à Montembeau, a nuit à Primo, a nuit à Jake Allen. Il y a personne qui a eu de la constance devant le
mais
filet.
C'est quand la dernière fois que le Canadien a envoyé un vétéran, c'est Carl Osner. J'ai aucun autre souvenir récent.
Armia en début de saison.
Armia, t'as raison.
Joël Armia en début de saison. Ouais, c'était une fontaine de Juventus. Oui, il est revenu en pleine forme. Depuis ce temps-là, c'est un joueur complètement transformé. Hey, restons sur Laval quelques instants, Stéphane, parce que là, il y a une série de défaites avec le Rocket. Dobège, comment ça va avec le Rocket?
Malgré tout, il va bien. Et puis, j'ai eu la chance d'échanger quelques textes, des fois, avec son entraîneur des gardiens de but, Marco Marciano, qui fait en passant tout un job à Laval. Depuis le mi-décembre, Jakub Dobech a eu une progression là, constante. Et puis, regardez pas ses chiffres. Regardez ses chiffres, là, et parce qu'il y a un début de saison désastreux. Jusqu'à mi-décembre, là, c'était un des pires gardiens de but de la Ligue américaine au niveau des statistiques. Et là, il revient de loin. Là, il se situe à peu près un petit peu plus bas que la moyenne. Mais il y a une belle progression. Puis ça, c'est important de focusser sur sa progression et non sur ses chiffres. Et parce qu'il coûte 22 ans. C'est pas gros. Puis moi, ce que j'aime de Dobech, c'est qu'en ce moment, il a joué dans 37 parties. Ça, sa première année professionnelle, là, c'est beaucoup pour un gardien de but. Puis c'est bon. Ça, c'est le même rythme qu'on avait avec Corey Crawford qui nous partait là, à une quarantaine de matchs par année dans le temps des mineurs. Et puis où est-ce qu'on est, Dobech va dépasser facilement le 40 matchs. Ça, c'est très bon pour sa progression. Donc, malgré le fait qu'il ne gagne pas autant qu'il voudrait, même s'il y a une fiche gagnante, là, 16-13-5, et puis il va bien. Et ça, c'est une bonne nouvelle.
OK, bon, mais on met ça dans le collimateur et on verra la suite des choses si Dobech...
6-5, là, c'est un beau projet.
Oh, c'est intéressant, ça. Fowler est combien, lui?
6-1. Puis dans le NCAA, eux autres, ils marquent 6-2. Donc, il a peut-être grandi d'un pouce dernièrement.
OK, puis le physique, ça va bien? Le physique, parce qu'on disait en début d'année là, qu'il était un petit peu joufflu. Es-tu mieux?
Hey, parlez hier, en passant, là, il a gagné 1-0 contre New Hampshire. Et puis, toute une partie. Ça a assuré ça à Boston College de finir premier dans la division là, NCAA Hockey East, qui est une des bonnes divisions de hockey NCAA. Et puis, Parler a fini avec le plus de victoires dans le hockey de la NCAA avec 26. Et ça, là, c'est pas incroyable. Mais qu'est-ce qui est incroyable, c'est à son année freshman, première année dans la NCAA à 19 ans. Il n'y a pas beaucoup de gardiens de but qui, à 19 ans, jouent autant que Fowler a fait. Il fait pas même jouer, il gagne. Et puis, il y a une moyenne de 2,17, une efficacité de 924. Quelle première saison pour Jakub Fowler à Boston College.
Ils ont une pas pire équipe.
Ouais, ben c'est ça. Ben Boston College, d'ailleurs, tous les lundis, la NCAA sort le classement de tout le classement national, dans le fond, et Boston College encore numéro un au pays. Donc, ça sera une des équipes favorites pour gagner le championnat de fin d'année. Là.
Et on sent les orteils qui frétillent à Stéphane. Ça fait... On parle de Jacob Fowler. Oup, 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 mon ami.
J'adore. Ah. C'est ce qu'on appelle un gamer.
Un gamer. OK, on va s'arrêter là-dessus. Et pour avoir des gamers dans ton équipe, des fois, les petits détails font la différence. Parce que là, Martin Saint-Louis a souvent parlé des petits détails. Sauf que là, les petits détails font en sorte que tu perds par un but, que tu perds après 60 minutes de jeu, que tu perds tes avances. Est-ce que les petits détails peuvent vraiment tout réparer? On en parle au retour. Restez.
Recule un peu, recule, recule.
Stationner en parallèle, ça devrait être simple.
OK, crampe en masse, crampe, crampe, crampe!
Faire et suivre une réclamation rapidement sur l'appli Bel Air Direct, ça, c'est simple.
OK, des crampes.
Bel Air Direct, l'assurance simplifiée.
On est de retour au balado Sortie de zone, saison 5, épisode 42, avec Guillaume Lefrançois, Alexandre Pratt et Stéphane White. Je commence avec Guillaume. Guillaume, Martin Saint-Louis parle souvent ses petits détails. Tu sais, des belles touches, mais des petits détails. Et les petits détails font que cette équipe-là, le Canadien, perd par un but assez fréquemment. C'était le cas dans les deux derniers matchs. Perd après 60 minutes de jeu. C'était le cas dans les deux derniers matchs. Perd l'avance. C'était le cas à plusieurs reprises cette saison, avec une avance de 1, 2, même 3 buts. Et on n'arrive pas à... Tu sais, puis t'as parlé, Stéphane, de closer. On n'arrive pas à gagner le match. Est-ce que quand on parle de petits détails, est-ce que ça va faire en sorte que si on corrige les petits détails, on sera capable de gagner des vrais matchs de hockey en tant que réglementaire?
Ben, la première chose avec ça, j'ai regardé les matchs par un but. C'est évidemment un sujet, vu que le Canadien vient d'en perdre deux de suite. Le Canadien a quand même une fiche de 15-10-10 dans les matchs qui se décident par un but. C'est pas idéal, mais c'est pas catastrophique non plus. C'est une fiche pas mal à l'image de la saison du Canadien. C'est une fiche très semblable à la fiche globale du Canadien. Puis d'ailleurs, dans ces matchs-là, 15-10-10, c'est la 26e fiche dans la Ligue nationale et le Canadien est 26e au classement général. Donc, je veux dire...
Mais c'est 15 pas... victoires, 20 défaites.
Non, exact, exact.
T'sais, mais c'est je veux dire, 20 défaites.
Non, ça, mais je veux dire que c'est, en termes de pourcentage de points, c'est la fiche globale de l'équipe, la fiche par un but, c'est la même. Donc, c'est pour ça, c'est moi, ce qui me frappe plus dans les deux dernières défaites, c'est que ça a été deux buts accordés quand t'es en avantage numérique, qui ont fini par te faire mal. Et le Canadien est premier ou dernier, là, comme vous voulez, dans la Ligue nationale, pour les buts accordés comme ça. 11 buts déjà cette saison accordés en 61 matchs. Ça, c'est un but une fois aux 5 matchs, tu te fais prendre. Alors, c'est plus là qui est le problème. Puis on dirait qu'on a un peu moins parlé des problèmes de l'avantage numérique parce que le Canadien a été productif depuis plus ou moins les fêtes. Là. Tu sais qu'il y a eu un déclic là, au début du long voyage là, du temps des fêtes. Alors on en a moins parlé, mais les buts accordés demeurent vraiment problématique et c'est peut-être ce qui vient de coûter deux victoires aux Canadiens. Donc c'est plus à ce niveau-là. Alors j'ai hâte de voir. C'est drôle, la semaine dernière je parlais je pense que c'était ici que je parlais du succès de Nick Suzuki dans les entrées de zone pour organiser les entrées de zone. Mm-hmm. Mais en même temps on a vu sur le but que Tampa a marqué samedi, ben ça a été ça. C'est comme bon, est-ce que les adversaires commencent à voir venir Suzuki dans ses entrées de zone? C'est pas impossible. Je veux dire, mais c'est parce que c'est systématiquement par lui que ces entrées de zone-là se font. Alors, il y a certainement des ajustements à faire de ce côté-là.
Mais juste à dire, Guillaume, c'était hasardeux. La transversale de Suzuki là-dessus.
Non, exact. Mais il a fait souvent comme ça.
La transversale bord en bord.
Oui, oui, exact, exact. Ça y arrive de la faire, mais là, c'est ça. C'est dans ce cas-là, le clairement. Les Lightning avaient bien fait le pre-scout.
Nick pour qu'il réalise que les autres équipes font du pre-scout. À un moment donné, ça devient trop prévisible, sa petite passe, il va se faire avoir, puis ça a coûté. C'est ça.
C'est ça. Oh, la boulette, c'est ça qu'on dit, ah, la boulette. Alexandre, est-ce que les petits détails vont tout corriger, puis finalement, on va gagner un match en temps réglementaire?
Ben, au-delà des petits détails, il y en a un plus gros, je te dirais, à régler, qui est savoir gagner. C'est ce qui manque à ce club-là. Ce club-là a de la misère à savoir comment garder une avance. T'sais, il y avait une belle avance, le 2-0 à mi-match contre le Lightning. C'est quand même confortable. Puis même en troisième, ils ont pris l'avance 3-2. Ils sont pas incapables. Des fois, ils gardent des avances, mais c'est difficile. T'sais, la confiance, ça s'effrite vite. Un mauvais jeu, des fois, t'as l'impression que le château de cartes s'effondre tout de suite. Puis ça vient avec l'expérience, ça vient avec le leadership, t'sais, ça vient vraiment avec le... on parlait de Paulo de tantôt, puis les boys, mais ça vient avec la dureté du mental. Puis c'est plate, c'est archi stéréotypé, mais c'est vrai. Puis il y a même un joueur qui l'a dit après le match contre Tampa. Il faut vraiment se mettre dans un mode où il faut apprendre à gagner. Puis ça, le Canadien ne l'a pas démontré. C'est ardu. C'est comme s'il y avait un sentiment d'imposteur, en fait, quand il mène. Surtout contre des bons clubs. Fait que parce que contre des mauvais clubs, bon, tu sais, souvent on voit le jeu super ouvert, puis honnêtement, c'est un total bordel. Puis des fois, le Canadien gagne, des fois, il en perd. Mais contre des bons clubs, souvent, ils jouent bien, tu sais, puis là, c'est souvent très serré, mais à la fin, il manque toujours quelque chose. Puis, tu sais, il manque un petit peu de talent. Beaucoup de perdus, beaucoup de parties perdues, prolongation ou tirs de barrage à la fin. Tu sais, les tirs de barrage, c'est quand même bien une compétition d'habileté en grande partie. Là, puis les
ouais, mais ben, le Canadien a la carte cachée, Jesse Ilonen, ouais, qui est vraiment très bon. 2-7 cette année, puis parmi ces 5 qu'il a raté, il y a au moins 2 poteaux. J'ai pas compté systématiquement, ouais. Mais au moins 2 poteaux hier, l'arrêt avec la maillotche. Donc, il y avait...
Le poteau, Guillaume, tu es un gardien de but dans la vie. Et le poteau ne fait pas partie du but.
Je sais. Mais tous les poteaux ne sont pas nés... égaux.
Ah non, raconte-moi donc ça.
Ben, il y a des poteaux francs, il y a des poteaux moins francs.
Non, mais c'est-à-dire qu'il y a des fois que je me dis, OK, poteau, c'est bon, je couvrais bien mes angles. Et d'autres fois, je me dis, ah, ben, j'ai
merci.
Merci, j'ai été chanceux.
C'est ça.
Stéphane, je veux savoir les petits détails, est-ce que ça va tout corriger?
Oui, ben, ça va corriger beaucoup de choses, mais ça vient, Alex vient d'en parler, ça vient surtout avec la maturité. Une équipe qui est plus mature, ben, on va appliquer les petits détails. Puis les petits détails, moi, genre, c'est souvent la gestion de la rondelle dans des moments, des fins de période. La gestion de la rondelle quand t'as une avance de 1-2. Et puis, des fois, c'est juste, OK, t'as pas de jeu à ligne bleue, juste mettre ça dans le fond. Ben non, on force des jeux, un revirement, le puck est dans le net, c'est 2-2. Et puis après ça, mais là, on perd des matchs en cause de l'amour juste de gestion de rondelle. Puis ça, c'est de la maturité. Les équipes qui gagnent, gère la rondelle dans les pointages, les fins de période. Et puis, donc, des fois, on est un petit peu cow-boy. C'est des jeunes joueurs. On va en faire un petit peu plus. Une présence qui s'étire un petit peu trop. Oh, revirement, c'est fini. C'est de la gestion de rondelle, la gestion du match, la gestion du pointage qu'on n'est pas rendu là. Et puis, l'autre chose, c'est faut pas se le cacher, les gars, là. Il y a l'importance des matchs. Tu veux dire, l'importance des matchs, on en perd une, là, c'est pas la fin du monde. Donc, on va prendre un risque. Pourquoi pas prendre des risques? Alors, même si on perdrait, c'est pas la fin du monde. Mais si tu perds le match qui est important pour faire les séries, ça, c'est une autre affaire, mais on n'a pas cette urgence-là de gagner des matchs. Donc, on est pas mal plus frivole dans nos décisions.
J'aime beaucoup ton explication, Stéphane. Oui. C'est vrai qu'on les trouve frivoles et un petit peu arrogants par moment. Et cette transversale sur l'avantage numérique...
On s'entend qu'en séries éliminatoires, si tu mènes 3-2 en
3e,
il n'y a aucune chance qu'ils fassent jamais le jeu.
Ça n'arrive pas,
jamais.
Ces affaires.
C'est
jamais,
ça,
jamais,
je dis. À cause de l'importance des matchs, on fait des jeux que... Oh, bon, si on retourne de base, c'est pas fait.
Mais souvenez-vous, quand le Canadien s'est rendu en finale de la Coupe... Ça, honnêtement, il gérait vraiment bien le temps. Il gérait bien les avances, il gérait bien la rondelle. Tu n'avais pas de jeu dans le jeu.
Il était systématique, efficace. Là. Il était systématique.
Il y avait une équipe de beaucoup plus,
ben oui,
beaucoup plus mature, de vétérans.
Ouais. Tu avais des Stahl, tu avais des Corey Perry, tu avais du Weber au pied carré, ouais, avec Price dans le filet. L'expérience, c'est pas pareil. Mais tu sais, moi, des fois, je vois les défenseurs, puis on n'arrête pas de dire, ah mon Dieu, les défenseurs du Canadien appuient l'attaque et marquent des buts. Écoute, si tu as des matchs serrés, peux-tu dire que des fois, ça domperait à rouge, là? Tu sais, il n'y aurait pas. Je vois Jack qui s'en va dans le fond, quasiment, c'est lui qui fait l'échec avant.
Oui,
mon ami.
Jack F1.
Eh oui, attends une minute. Si on était dans des matchs serrés, d'après moi, il resterait un petit peu en arrière. Bon, faudra être avisé parce que les deux prochains matchs canadiens, c'est contre les Prédateurs de Nashville et les Hurricanes de la Caroline. Attends une minute. Là. Nashville, 8 victoires de suite, badaboum. Les Hurricanes de la Caroline, séquence de 2 victoires. Là, 10 derniers matchs, c'est 7-2-1. Là, moi, je suis quand même un peu surpris parce que j'ai passé vendredi dernier à vous dire que habituellement le Canadien joue bien quand son gardien fait tous les arrêts. Ça n'a pas été le cas contre Tampa Bay, puis on a joué un bon match. Comment vous voyez ces duels-là face à Nashville et les Hurricanes?
Je sens que demain, tu parles de la séquence de 8 victoires des Prédateurs, mais pas juste ça. Tommy Novak, cet après-midi, a signé une prolongation de contrat avec eux. Tommy Novak, c'en est un. Si on recule d'un mois, on ne savait pas encore si les Prédateurs allaient être vendeurs ou acheteurs à la date limite des transactions parce qu'ils étaient à la limite. Là, avec leur séquence de 8 victoires, ben ils se sont décollés un peu et je pense que cette prolongation de contrat-là Novak, s'envoie un message vraiment très positif dans le vestiaire, comme quoi que, bon, ben, ça y est, on y va cette année. Nashville a 7 points d'avance sur les Flames qui ont Nashville occupe la dernière place qui donne accès aux séries. 7 points d'avance sur les plus proches rivaux. Alors, tu sais, je pense que les gars, en voyant ça, les joueurs des Prédateurs, ben, je pense que ça va être un petit boost moralement. Mm-hmm. Alors, je crains une très forte performance des Prédateurs demain.
Alexandre? Et ça fait, dans les 6 derniers matchs, là, ils n'ont jamais donné plus que 2 buts, puis on n'a jamais marqué moins de 4. Donc, c'est en feu, là, c'est genre. C'est un brasier. Comment on pourrait dire? Qu'est-ce qui est très, très en feu?
Attends, le soleil est en feu.
Non, mais ça, deux soleils qui se rendent dedans. Tu sais, genre quelque chose de très, très, très chaud, là.
Écoute, c'est une belle image quand même. J'ai jamais figuré ça. Ouais.
C'est bref, tu sais, pour dire. Non, mais je vois pas le Canadien gagner contre les Prédateurs, désolé. Là.
C'est fou, hein, quand même. Les Prédateurs de Nashville, 8 victoires de suite, et on a trouvé le moyen de dire que Sarah Rose était sur le marché des transactions. Ouais, mais... Allô?
Il allait très mal avant la séquence de 8 victoires de suite. Ils ont eu plusieurs matchs de suite en donnant plus de 4 buts. Là. Je l'ai ici, 1, 2, 3, 4, 5. Ils ont donné 4 buts ou plus 6 games de suite, là.
Écoute, ça arrive une mauvaise séquence. Si Armia a des mauvaises séquences,
Non, je ne vois pas Brad, les Prédateurs. Puis bon, les Hurricanes, c'est en dents d'ici, ces temps-ci, mais ça reste une équipe fondamentalement plus talentueuse que le Canadien. Ouais.
Stéphane, de ton côté?
Ben, Nashville, écoute, c'est le bel exemple que les joueurs ont rendu la décision à Barry Trotz, le gérant général, de dire, OK, non, on va être des acheteurs ou on ne sera pas des vendeurs. Puis c'est les joueurs qui ont décidé ça depuis 2-3 semaines. Et puis, c'était entre leurs mains. Et puis, si les Prédateurs auraient eu une mauvaise séquence dernièrement, mais probablement qu'ils étaient des vendeurs. Mais maintenant, là, ça change la donne. Et puis, bravo, on n'en parle pas souvent de lui, là, Andrew Brunette. Il fait tout un job. J'adore ce gars-là. Je l'ai eu à Chicago à sa dernière année en carrière. Je pense que c'était en 2011-2012. Il avait joué à Chicago et puis Joel Quenneville qui l'avait coaché au Colorado voulait l'avoir absolument. Puis Joel il me disait tout le temps, Steph, Brunette va faire un coach dans la vie. Il va faire tout un coach. Et puis quand Joel est allé en Floride, mais c'est quoi qu'il a fait? Il a amené Andrew Brunette comme assistant coach. Et puis depuis ce temps-là, là, Andrew Brunette, là, il monte en flèche. Là, a fini l'année, on se rappellera de l'année qu'il a remplacé Joel Quenneville en Floride, où il avait fini premier au classement général, coach de l'année. Et puis, l'année passée, avec les Devils, ils n'ont pas une bonne saison cette année. C'est peut-être une des raisons. Ils ont perdu, c'est un gros morceau qu'ils ont perdu l'année passée à Andrew Brunette, qui était l'adjoint à Lindelof. Et cette année, sa première année à Nashville, fait tout un travail encore une fois. Moi, c'est bravo Andrew Brunette.
Et c'est vous qui garde les buts pour le Canadien demain?
Qui?
C'est Jake Allen.
Pour vrai?
Oui.
Wow!
Le Canadien a confirmé ça aujourd'hui.
Alors Jérémy,
est-ce que c'est son dernier départ?
Oh.
Qu'est-ce que ça dit, Stéphane?
Est-ce que c'est son dernier départ avec le Canadien?
OK, mais moi, je me disais, tu sais, moi, j'ai la théorie du char usagé que tu veux vendre. Il est toujours beau quand il est bien shiné sur le bord de la rue qui bouge pas. Mais s'il roule, des fois, tu te rends compte que tu as besoin de faire changer, je sais pas, moi, tes bearings de roue ou l'exhaust. Fait que t'es mieux de le laisser sur le bord de la rue. Je sais pas, tu sais, s'il se blesse, tu fais quoi? Au moins, il est sur la liste des blessés.
C'est une bonne,
Jérémy, qui gagne demain?
Ben écoute, si on suit les statistiques, ça devrait pas être le Canadien. Juste vous dire une chose avant qu'on aille à la pause. Souvenez-vous, voilà quelques semaines, Barry Trotz avait décidé d'annuler un voyage, appelé ça parascolaire, des Prédateurs de Nashville, qui était supposé aller du côté de Las Vegas. On était supposé d'arriver une journée ou deux à l'avance, aller faire quelque chose de le fun en équipe. On était supposé d'aller voir U2 dans la sphère.
Ah oui.
Et là, Barry Trotz, pardon, elle dit, on oublie ça, on va se concentrer sur le hockey. Et depuis ce temps-là, boum, boum, boum. Des fois, comme quoi, un petit coup sur les doigts, ça fait du bien. Et tout le monde se place et on est capable de jouer professionnellement. Ben voilà, c'est mon message est lancé.
Bon point.
On s'arrête là-dessus, on fait une courte pause pour retour. On va se parler d'un gars qui va faire beaucoup d'argent au courant des 8 prochaines années. Restez là.
Recule un peu, recule, recule.
Stationner en parallèle, ça devrait être simple.
OK, crampe en masse, en masse. Crampe, crampe, crampe!
Faire et suivre une réclamation rapidement sur l'appli Bel Air Direct, ça, c'est simple.
OK, des crampes.
Bel Air Direct, l'assurance simplifiée.
On est de retour au balado Sortie de zone saison 5, épisode 42 avec Guillaume Lefrançois, Alexandre Pratt et Stéphane White. Les gars, Elias Pettersson, 8 ans, 92,8 millions de dollars. Il est le cinquième plus haut salarié de la Ligue nationale de hockey. J'ai les chiffres, OK? Je donne les chiffres. Matthews, 13,25. On parle de millions, 13 millions 250 000. US. McKinnon, 12,6. McDavid, 12,5. Panarin, 11,642. Et 11,6 pour Elias Pettersson. Tour de table, les gars. Les Canucks ne pouvaient pas se permettre de perdre Elias Pettersson, Guillaume?
Non, exact, exact, tout à fait. Avec,
le marché canadien, quand même.
Oui, tout à fait. Mais tu sais, ça reste dans la grande tradition de joueurs suédois qui s'ancrent longtemps avec les Canucks. Si on dirait que ça suit cette franchise-là depuis 40 ans. Donc, non, pas de surprise là. T'sais, honnêtement, avec ce qu'ils montrent cette année, avec la montée en force de, ben bon, Quinn Hughes, on sait qu'il est bon depuis toujours, mais vraiment, il atteint un autre niveau cette année. Thatcher Demko, qui vraiment s'établit comme un des très bons gardiens de la Ligue. T'as JT Miller qui, éventuellement, je pense que ce contrat-là va être problématique, mais là, pour le moment, il est dans ses bonnes années. Donc, t'as quand même tout un noyau autour duquel bâtir. Puis là, ben, tu sais, bon, on a été chercher Elias Lindholm, tout ça. Donc, c'est quand même enthousiasmant pour cette équipe-là. Et ça aussi, je parlais tantôt de Tommy Novak à Nashville, mais ça aussi, pour les Canucks, ça t'élimine une grosse distraction à la veille de ce qui pourrait être un long parcours en série. Alors, je pense que c'est du très bon timing pour régler ça, parce que c'est un investissement qui pourrait paraître dès ce printemps, étant donné que ce dossier-là, cette incertitude-là a été chassée.
Stéphane, tu voulais ajouter quelque chose là-dessus?
Ben écoute, il ne pouvait pas se permettre de le perdre à 25 ans. Écoute, il commence sa carrière, là, tout un joueur, une moyenne de 30 buts depuis son entrée dans la Ligue nationale, 6 saisons déjà. Tout un lancé, 100 points l'année passée. Il ne pouvait pas se permettre de perdre ce joueur-là. Et puis, ça, c'est une belle affaire de régler pour 8 ans. C'est le standard à cette heure, hein, ces joueurs-là, des Caulfield, les Suzuki, les jeunes, le standard est 8 ans. Et puis, un beau dossier de régler pour les Canucks. Mais quand on me disait la semaine passée, qu'il était dans des rumeurs, ben que peut-être oui. qu'il pourrait déménager, je disais, ouais, voyons donc. Les Canucks ne peuvent pas se permettre de perdre ce jeune-là.
C'est le même gars qui disait que Saros était prêt à échanger aussi avec lui était dans son sous-sol.
D'après moi, Saros va être échangé.
Les gars, je vais vous parler, puis je commence avec Alexandre là-dessus. Les Penguins de Pittsburgh, défaite de 6-1 face aux Oilers d'Edmonton, sont présentement à 8 points. Du Lightning de Tampa Bay, qui est la dernière place comme meilleur deuxième. Tantôt, tu faisais référence à Nashville qui a 7 points d'avance sur Calgary. Tu disais, c'est pas mal, les jeux sont joués, les dés sont joués. C'est la même chose avec les Penguins de Pittsburgh. 8 points, c'est difficile. Il y a du monde en avant d'eux autres. Et je voyais aujourd'hui, point de presse de Sidney Crosby dans le vestiaire, le gars, il est pas content. Là. Les gars, puis tu sais, le journaliste, il disait, tu sais, le big picture de tout ça, il dit, tu sais, la photo que tu me parles, moi, je la vois pas, là. C'est juste qu'on fait la même chose que ce qu'on a fait hier. Je la vois pas, cette photo-là. Alexandre, qu'est-ce qui va se passer avec les Penguins de Pittsburgh? Est-ce que Dubas a eu un cadeau empoisonné? En fait, est-ce qu'il a pris un cadeau empoisonné?
Non, mais je veux dire, c'est un beau défi pour un gestionnaire quand même. T'as une équipe vieillissante, puis tu sais que tu vas procéder à une restructuration.
Mais tu peux pas échanger personne, à part Gonzalo.
Non, tu peux les échanger, puis moi, je pense qu'ils vont finir par en échanger dans le noyau de joueurs. C'est juste que là, à court terme, à cause des clauses de non-mouvement, là, ils vont échanger Gonzalo, puis peut-être Larcelaire, ou tu sais, les autres, je pense, sont pas échangés. Ben, ils vont être beaucoup plus difficiles à échanger. Mais tu sais, à partir de cet été, où là, t'as plus de temps pour travailler ta transaction, c'est un petit peu plus facile de faire lever les clauses de nos mouvements. Tu sais, ces vétérans-là, est-ce qu'ils vont vraiment vouloir terminer leur carrière dans une équipe, tu sais, un petit peu en perdition, là? Je veux dire, c'est l'équipe dans la ligue présentement avec objectivement le pire pool de prospects, le pire groupe de prospects, là. Il n'y a rien. Je veux dire, ils ont tellement échangé de choix que c'est à sec, là, je veux dire, présentement.
Mais c'est ce qui m'a passé dans la tête en voyant Crosby, là, je me suis dit, oh, le gars, il veut encore gagner.
Non, mais tu sais, je comprends la loyauté, là, puis l'image de Mario Lemieux, puis de Jean Béliveau, puis de Steve Yzerman, tu sais. Mais de façon réaliste, Crosby, il lui reste beaucoup de bonnes années. Je pense franchement que c'est un joueur qui peut encore être bon jusqu'à 40 ans. Là. Il est parti pour ça. C'est quelqu'un qui est en forme. T'sais, est-ce que tu vas encore rester, je sais pas, 3, 4, 5 ans t'sais, dans un climat comme ça? De toute façon, ce contrat, il va venir à terme avant. Fait que, t'sais, un jour, ils auront cette conversation difficile entre eux de genre, Sidney, c'est quoi la suite? Ça sera pas d'ici la fin de la semaine. Mais sur le terme, moi, personnellement, être Sidney Crosby dans sa position, puis oui, la loyauté, c'est beau, puis c'est un beau principe, mais à un moment donné, j'aimerais quand même me retrouver dans un environnement gagnant pour les 3, 4, 5 dernières saisons de ma vie. Là. Ça ne sera pas le cas s'il reste à Pittsburgh.
Guillaume?
Moi, c'est vraiment Jake Gensel que j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire avec parce que ça. Bon, d'un côté, ils peuvent tenter de vendre Gensel à une équipe qui pourra lui offrir une prolongation de contrat et là, à ce moment-là, vraiment maximiser la valeur de Gensel, maximiser ce que tu obtiens en retour. Alors, si tu fais ça, ben voilà, tu mets les premières pierres. Par contre, est-ce que Dubas pourrait essayer d'aller chercher le beurre et l'argent du beurre, c'est-à-dire l'échanger et le récupérer cet été? Pourquoi je parle de...
J'y crois tellement pas.
Mais ce qui m'a fait réfléchir aujourd'hui, c'est Pierre Lebrun qui a sorti une information comme quoi que bon, les équipes commencent à, des équipes se manifestent un peu plus.
Il y avait Vegas là-dedans.
Ben, c'est ça. Il y avait Vegas et Vancouver. Mais c'est parce qu'il est intéressant, c'est que c'est deux équipes qui auront pas de place pour garder Gensel l'an prochain. Alors, si t'es Carl Dubas et que tu entretiens cet espoir-là de le ramener cet été, ben c'est sûr que l'échanger à une équipe qui aura pas les moyens de le retenir, c'est pas une mauvaise stratégie parce que je pense que le plus gros danger quand tu fais un échange comme ça, c'est que le joueur justement se plaise dans son nouvel environnement, se fait des nouveaux amis, la famille aime ça, etc. Et finalement, le joueur reste là. Mais là, c'est ça. Si tu l'échanges à des équipes qui ont pas de place sous le plafond salarial pour lui offrir une prolongation de contrat.
Est-ce que les Pingouins ont de la place, eux autres?
Ben,
il n'a pas d'en avoir tant que ça.
Mais pourquoi il reviendrait, mettons, l'année prochaine? Il reste un an au contrat de Sidney Crosby.
Ouais.
T'es pas sûr qu'il va rester. Malkin est en déclin. Bon, le temps...
Dubas a été chercher Carlson. Écoute, ça n'a aucun sens. Vas-y, Stéphane. Vas-y, fais-moi plaisir. Go, Varge.
J'ai jamais compris cette acquisition-là d'Eric Carlson. Et puis, écoute, je pense que... La saison qu'ils vivent le prouve, mais ils ont des grosses décisions à prendre. On fait quoi avec Chris Letang, 36 ans? On fait quoi avec Malkin, 37 ans? C'est des grosses décisions à prendre. Crosby, 36 ans, mais je suis d'accord avec Alex quand il dit qu'il y a encore 4-5 bonnes saisons dans ce gars-là, c'est ce qui est assez incroyable. Mais des grosses décisions à prendre et puis t'es pris avec le fameux contrat de Carlson pour encore après cette année, 1, 2, 3 autres années à 10 millions par année. Ça n'a aucun bon sens. Ça, c'est de la mauvaise gestion. Pas de place sur le cap. Peut pas retenir un gars comme Gensel qui est quand même un élément important dans ton équipe. Pas capable de le retenir pour toutes les mauvaises décisions.
En plus, t'as déstabilisé ton noyau en allant chercher Carlson. T'as fait peur un peu à l'OTAN, t'as enlevé du temps de glace de qualité à Sainte-Trinité des Pingouins de Pittsburgh. Écoute, c'est un mauvais geste.
L'autre affaire, Pittsburgh, là, c'est pas la destination la plus sexy non plus. Comme, tu sais, je veux dire, c'est pas, tu sais, New York, mettons, puis Los Angeles, ils ont réussi à se reconstruire rapidement, mais c'est des places où les joueurs autonomes se pitchent pour y aller, là. C'est pas précisément le cas pour Pittsburgh.
Pour Pittsburgh. Hey, juste un point, puis Stéphane, je veux t'entendre là-dessus. Tu sais, il y a deux couleurs que je regarde dans le classement. Il y a le rouge et le vert. Le vert, c'est quand t'as le différentiel qui est positif et le rouge, c'est quand t'as le différentiel qui est négatif. Le rouge, habituellement, ce sont les équipes qui sont pas classées en série de fin de saison. Le vert, c'est les équipes qui se classent. Les Pingouins sont pas classés, sont à 8 points, mais ils sont dans un différentiel vert de plus 14. Comment tu m'expliques ça?
J'ai de la misère, puis c'est rare que tu vois ça. Et puis, c'est une bonne question. Les gardiens de but, on doit avoir fait un travail correct. On manque beaucoup de buts aussi, mais puis je dis ça, c'est pas vrai. Ils ont le pire powerplay de la Ligue. Un des pires powerplay de la Ligue en allant chercher Carlson. C'est des affaires qui sont dures à expliquer dans le monde du hockey, puis ça n'est.
Écoute, sincèrement, on va essayer de travailler là-dessus. On va trouver une réponse un moment donné. Mais je comprends pas. Quand t'es plus 14, t'es supposé être parmi les équipes qui sont
qui
font les playoffs. Mais là,
et ça, c'est quand tu me dis ça, tu me rappelles tout le temps Jean-Jacques Desnoyers, il me disait tout le temps ça. Si on paye d'un plus, on va faire playoffs. Si on n'est pas d'un plus, on ne fait pas les playoffs. Puis c'était aussi simple que ça.
Ben
puis,
oui.
T'as raison, c'était un... C'est tout un mystère, ces pingouins de Pittsburgh.
Est-ce que le Canadien est dans le vert ou dans le
rouge? Pas mal dans le rouge. Pas mal dans le rouge. Hey, on avait dit, c'était quoi? C'était les pires dans l'Est. Il était à moins 46.
Moins 46, ouais, ouais, exact. Bravo, moins 46. Moins 46. Pire dans l'Est. Et dans la Ligue, il y a seulement Anaheim, San Jose et Chicago qui sont pires.
Bravo, bravo. Alors, on s'encourage là-dessus. Et surtout, on se donne rendez-vous vendredi prochain pour la date limite des transactions. Gros merci à Guillaume Lefrançois. Ça fut un plaisir.
Merci, JR.
Alexandre Pratt, toujours le fun. Merci, Alexandre.
Et plus tard.
Et Stéphane White, merci d'avoir été là.
Merci les gars, bonne semaine.
Donc c'était la balado sortie de zone épisode 42. Et là, écoutez bien, vendredi prochain, le 8 mars, c'est la date limite des transactions. Soyez à l'affût, placez-vous des notifications. On va enregistrer le balado un petit peu plus tard pour s'assurer que tout est fait, qu'on a eu les points de presse, les conférences de presse, et ce sera l'analyse complète et en détail de tout ce qui s'est fait ou pas fait chez les Canadiens.
Je pensais qu'on était à partir de 6 heures du matin live.
Oui, c'est ça.
Toute la journée.
Il y a juste toi, Alexandre, qui est là à partir de 6 heures et je pense Stéphane White aussi. Ceci étant dit, hey, merci beaucoup et on se parle vendredi prochain.
Recule un peu, recule, recule.
Stationner en parallèle, ça devrait être simple.
OK, crampe en masse, crampe, crampe, crampe!
Faire et suivre une réclamation rapidement sur l'appli Bel Air Direct, ça, c'est simple.
OK, des crampes.
Bel Air Direct, l'assurance simplifiée.